Osmozen, l'émission. Bonjour,
bonjour à tous, merci d'être avec nous en osmose. Pour Osmozen, l'émission bien-être et autres. J'aime bien rajouter autre. Bon, on parle un peu d'innovation des fois, puis de différentes choses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver notre ami Jean-Jacques Gérard. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Alors, on vous connaît, hein, psychanalyste, victimologue, clinicien.
Ouais.
C'est bien dit.
Ah oui, super.
C'est bien dit. Ouais. Alors, on se balade, hein, des fois. Ces derniers temps, on avait fait quoi ? Les poncifs du bien-être,
ouais.
Du développement personnel, pardon. Mmh. C'est pas tout à fait pareil. On a regardé aussi...
La prévention des violences.
La prévention des violences.
Ouais.
Et puis, il y avait
accompagnement psychologique approfondi.
Voilà. Et on reste dans cette voie-là
tout à fait.
Aujourd'hui.
Ouais, ouais, ouais.
Et le titre de l'émission, j'ai bien aimé ce que vous m'avez proposé. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis sur Facebook. C'était quoi ? Psychologie, psychanalyse, dialogue avec l'inconscient, le grand autre. C'est qui l'inconscient ? C'est un grand autre, en fait. C'est ça que... C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que c'est cet inconscient. Est-ce que c'est la même chose que le subconscient ?
Alors, j'ai pris cette idée-là. On va voir tout de suite qu'on va aller dans la forêt. J'ai pris cette idée-là en reprenant en fait ce concept qui avait été évoqué par Freud, et je pourrais dire en tout cas aujourd'hui que l'idée c'est beaucoup plus ce qui n'est pas conscient ou le non-conscient que l'inconscient, qui finirait, ça faisait partie de ce que Freud a appelé une de ses topiques, hein, dans lesquelles il parle du conscient, du préconscient et de l'inconscient. Ça c'est une des topiques qu'on appelle la topique freudienne. Nous allons parler possiblement de comment penser ce qui est en nous et qui n'est pas conscient. Voilà, c'est plutôt de ce côté-là que j'arrive, moi. C'est-à-dire, nous sommes aux prises, qu'on le sache ou pas, du reste, à la limite qu'importe, nous sommes tous aux prises avec toutes sortes de choses. Ça va des pulsions qui, parfois irrépressibles, on l'a vu dans les préventions des violences.
Oui, j'ai insisté là-dessus. Des gens qui passaient
mais
à l'acte.
Toutes sortes de choses qui nous poussent à désagir, qui nous poussent à tout un tas de choses, à cet endroit où, au plus simple, nous pourrions dire c'est du plus fort que moi qui parle, quoi. C'était plus fort que moi. Mais pas forcément le jour où on tue quelqu'un, ça oui. Mais il y a plein, toutes sortes de choses. Donc ça parle de choses qui ne sont pas conscientes. J'étais pas conscient, ça m'a dépassé.
Oui, mais ça peut être dans tous les actes de la vie.
Tout à fait.
Une séparation, une rencontre, un achat compulsif, on ne sait même pas pourquoi.
Non, mais c'est d'abord de considérer qu'on n'est pas conscient. C'est pas seulement à l'occasion d'une connerie.
D'accord.
C'est qu'on est en soi pas conscient. C'est-à-dire que l'être humain, la conscience d'un être humain, c'est ce qu'avait compris Freud. Il disait que c'était la partie émergée de l'iceberg. Il ne nous parlait pas des conneries, des loupés, etc. Bien qu'il en ait parlé un peu plus tard. Mais c'est qu'il y a en nous, on est fait de ça. C'est-à-dire deux choses, on pourrait dire largement notre subjectivité dans sa globalité. Une grande partie n'est pas consciente.
C'est dingue. On a l'impression d'être conscient quand
même. On a l'impression, moi je veux bien, mais ça ne résiste plus dès qu'on arrive en tout cas dans la clinique, du côté de la clinique, à savoir dès qu'on se penche sur la personne humaine qui arrive parce qu'effectivement ça la déborde, elle est débordée par des choses qui la dépassent. Encore là, vous voyez, débordée, dépassée. Mmh. Donc consciemment, elle est dépassée, elle est débordée. Monsieur Gérard, mais je ne comprends pas, je veux ça et je me retrouve là. Où je m'étais bien dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça, et en même temps je l'ai fait, et boum, je me suis cassé la gueule. Enfin, il y a toutes sortes d'énoncés, il ne m'en vient pas là, des exemples concrets, ça viendra en cours d'émission. Mais des choses qui sont tout à fait parlantes, et ça me paraît intéressant du reste d'en avoir quand j'en ai des exemples, parce que là, les auditeurs, ils peuvent piger, quoi. Mais tout le temps. Tout le temps. Il y a tout un tas de choses, on pourrait le dire autrement. Quand on dit « je marche à côté de mes pompes », mais qu'est-ce qui me fait marcher à côté de mes pompes ? Mais il y a bien quelque chose qui se passe. Ce n'est pas comme ça qu'on marche à côté de nos pompes. Il s'est passé des choses. Et bien souvent, ce qui s'est passé a des déterminants qu'il va falloir chercher, ou on va les trouver dans nos histoires personnelles.
Dans la vie de famille, enfin la vie de l'enfant qu'on était.
L'histoire de l'enfant, l'histoire du bébé, on l'évoquait précédemment. L'histoire du bébé qui est une histoire non-verbale. Encore que non-verbale du côté du bébé. Mais il reçoit du verbal du côté de la mère ou du côté de l'environnement, du père, etc. Mais lui, il ne peut pas l'exprimer. Il est l'appareil à langage du bébé, il va lui arriver à 25 mois, entre 25 et 30 mois, pour que ce soit construit, cette affaire-là.
D'accord.
Mais avant, il a une vie, le bébé. Il a une vie impulsive, il a une vie pulsionnelle, il a une vie sensorielle, il a une vie à plein de niveaux, il a une vie, c'est toute une vie la vie d'un bébé. Quand on commence à l'observer, on s'aperçoit qu'il a des besoins. Et il est hyper dépendant, par définition. Et donc les besoins pris dans une hyperdépendance vont faire que s'il y a trop de frustration parce qu'il n'est pas assez aimé, parce qu'on voulait une fille, on a un garçon, et puis mine de rien, on va avoir des gestes qui vont nous trahir par rapport à des désirs qui ne sont pas des désirs, enfin tout ça. Mais on peut plus croire quand on est clinicien que tout ça n'a pas son impact.
Eh oui.
Ça a son impact. Et ça ressortira, ça ressortira. L'autre jour, il me vient un patient qui, à un moment donné, a eu une expression, je ne sais plus laquelle, en cours de séance, et ça a attiré mon attention particulièrement. J'ai raisonné à cette posture ou cette attitude du patient. Et il lui est venu un souvenir, apparemment d'un seul coup, d'un seul, ce que je ne crois pas, mais c'est apparemment de l'extérieur, d'un seul coup, d'un seul. Quel souvenir ? Il lui est venu un souvenir d'un bébé qui se sent en insécurité la nuit. Et il ne parle pas, il doit avoir 12-14 mois. En insécurité, il franchit son plumard, les barreaux, hein, il est dans un lit à barreaux, il franchit, c'est la nuit, il sait à peu près se repérer pour trouver la porte des parents, qui est la porte, elle est fermée. Il va se mettre à crier derrière la porte, mettons 10 minutes, un quart d'heure, j'y étais pas, personne ne répondra. C'est un choc traumatique, puissant, pour la personne du bébé. Celui qui en parle à ce moment-là, il a 45 balais.
Il ne se rappelait pas du tout de cette histoire, en fait.
Mais il vient de s'en rappeler.
Elle ressurgit comme elle ça ressurgit, lors d'une séance.
Elle ressurgit, mais pas n'importe quel moment, pas n'importe quel contexte, dans un processus relationnel qui aussi est accueillant de ces surgissements.
D'accord.
Le psy est accueillant, ça.
C'est étonnant. Enfin, c'est une question. Hein, parce oui, que, oui. On dit souvent que la mémoire, elle commence à fonctionner vers 3-4 ans. Donc, ces choses dont on parle, là, du bébé...
Ah non, la mémoire, les mémoires, c'est bien avant. Mais il y a des mémoires.
Ça s'inscrit, quoi.
Le problème, souvent, c'est que les gens qui ne connaissent pas bien tous ces processus en parlent d'une certaine façon. Mais les mémoires, elles existent. Dès qu'il y a du vivant, il y a de la mémoire. Il n'y a
d'accord.
pas de doute avec ça.
Le truc, c'est
mais
qu'on
la
les
mémoire,
pas
elle n'est pas verbale.
Oui, parce qu'on ne se rappelle pas de notre accouchement, par exemple. Enfin, notre naissance.
La mémoire, c'est-à-dire qu'il y a une confusion, là, dans ces énoncés-là, entre l'idée qu'on se fait de la mémoire via la conscience, notre conscience, et un autre aspect, la mémoire, c'est le non-verbal de la mémoire. La mémoire, c'est pas que... J'ai pas eu de la mémoire par rapport... Alors, 3 ans, c'est peut-être l'âge où la personne qui parle, elle a commencé à pouvoir le verbaliser.
Ah oui, elle conscientisait, donc
elle
à en faire une image.
Et verbaliser la parole, l'accès à une parole. Mais l'accès à une parole avant, mais la mémoire, elle y est, mais elle n'est pas par le même canal qu'après. Et il y a tous ces chemins du non-verbal qui sont tout un apprentissage, y compris du côté du psy.
C'est hyper intéressant.
Apprendre ce non-verbal qui s'exprime. Et après, la clinique, c'est-à-dire l'expérience clinique, nous amène à y être particulièrement attentifs. Autrement dit, ça va passer par le ressenti. Ça va passer par les affects qui arrivent. Ça va passer par les rêves. Donc, tout un tas de sentiers qui vont venir nous dire du non-verbal de la mémoire, le non-verbal de la mémoire. Il est au moins aussi important que ce qui a pu être verbalisé en moyenne après 28 mois.
Non, c'est-à-dire que cette mémoire-là, elle s'inscrit en nous, dans nos cellules.
Ouais.
Enfin, on la verbalise pas, on la conscientise pas, mais elle est là.
Ouais.
Et donc après, elle peut, elle fabrique notre inconscient, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir nous diriger quelque part ou nous,
donc,
nous,
y a
nous
des,
faire agir
y a des traces,
sans qu'on le sache.
Il y a des traces, donc le non-verbal, il y a des traces qui vont se traduire à un moment donné par des façons d'être, qui peuvent être, par exemple, une personne peut se retrouver à un moment donné à avoir une peur de quelque chose. Par exemple, celui qui a sauté son pieu, plus tard, ça pourrait donner, si je vais caricaturer un peu, mais c'est pour donner à entendre, ça pourrait donner, je ne sais pas ce que j'ai, mais moi, face à ces situations-là, j'ai toujours peur.
Qui a sauté son pieu, qui est tombé du lit, quoi.
Oui, oui,
petit,
oui.
Qu'il
a fait un exercice pas commun d'arriver quand même à enjamber, et quand il en parle, c'est-à-dire 45 balais plus loin sur le chemin, il sent bien la trouille avec laquelle il était aux prises, la sécurité dont il avait besoin, parce qu'il était dans la panique, dans le sol, dans tout ça, et bien à un moment donné, il l'a amené à faire un truc, un exploit de bébé. Un exploit de bébé, n'importe quel bébé à ce âge-là n'aurait pas franchi ce qu'il a franchi. Donc il va faire un exploit, mais ça ne va pas être banal. Il va se passer des choses. L'exploit, c'est quoi en lui ? C'est la peur qui l'a poussé à faire cet exploit, qui l'a poussé en avant. Après, il va se passer d'autres choses, avec des peurs terribles. Le bébé va vivre à ce moment-là des peurs terribles. Ces peurs-là, elles vont faire comme un ancrage, elles vont laisser une trace. Et du coup, on peut parler de traces mnésiques. Pour autant qu'on arrive à les appréhender du côté du non-verbal. Et là, ça suppose, chez le psy, un certain travail, une certaine approche.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc, une chute du lit, par exemple, de bébé, peut marquer à vie, par exemple, une peur de quelque chose, ou le fait qu'on n'arrive pas à franchir un obstacle.
On a bien vu déjà...
Donc là, on a bien l'idée de la mémoire qui n'est pas du tout verbale, qui n'est pas prononcée, qui est juste inscrite.
Ouais. Et qui va ressortir, qui peut ressortir dans un rêve. Si je vous rappellerai que cette histoire du patient qui avait des paralysies, qui étaient localisées à certains moments, qui se déplaçaient et qui fait le rêve, qui fait un rêve d'un bébé qu'on se passait de main en main et qu'à la limite on allait le jeter à la poubelle. Voilà, c'est un bébé, une histoire d'un bébé dans un rêve qu'on va jeter à la poubelle. Le dernier à prendre le bébé dans les mains et à jeter à la poubelle, c'était le père. Ça, c'est du côté du rêve. Du côté de la réalité, de l'autre aspect, le patient, association, ça lui rappelle quoi ? L'abandon du père à 7 mois. Il a 7 mois, le père quitte le domicile familial. Mmh. Et lui a vécu l'abandon. L'abandon du père, qu'est-ce que c'est pour lui ? Il ne va pas nous sortir une grande explication. À un moment, quand le père se barre, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, ça fait absence. Parce que la voix du père, à tous les coups, il s'y était habitué, il s'y était familiarisé.
Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose.
Pardon ?
Il y a un grand vide. Là,
un grand vide. Grand vide qui va rejaillir à l'occasion d'un travail avec le psy qui lui dit « Soyez attentif à vos rêves, notez-les, on les reprendra ensemble. » Et bien, à ce moment-là, dans un des rêves, un bébé arrive. Ce n'est pas n'importe quel bébé, ce n'est pas le rêve du voisin, c'est le sien. Et comme par hasard, il associe. Alors là, du coup, avec sa conscience, il y a quelque chose qui vient réactiver une mémoire, celle du bébé abandonné par le père. Et on verra bien, chemin faisant d'un certain nombre de séances, combien l'impact a été puissant jusqu'à amener en lui des inhibitions, des peurs, même plus tard, 30 ans, 40 ans plus tard. Et donc, à un moment donné, le travail psychologique va nous conduire à recontacter ces mémoires-là.
Voilà. Comment vous arrivez en tant que psychanalyste à faire le lien après entre le... C'est en discutant avec la personne ou c'est en faisant des recherches dans sa vie historique pour
Pas du tout.
Parce pas que du tout, là, quand on vient, alors, par exemple, je viens, je vous dis...
On reviendra sur le mot psychanalyste, ça sera intéressant, voilà. Puisqu'il s'agissait de l'approfondir. C'est pas...
Je viens vous voir avec un rêve,
il faut
on m'abandonne.
J'ouvre une parenthèse, voilà. Il faut que j'ouvre une parenthèse. Sans ça, on risque d'être dans la confusion et je crois que les auditeurs seraient intéressés. Je parle volontiers de psychologie, l'étymologie est simple, c'est donc la science, l'intelligence de la psyché. Psychologos, psychologie. Psychanalyse... Dans l'usage courant, dans notre culture, c'est important de se dire ça, il y en a 40 000. J'exagère à dessein pour attirer l'attention. Psychanalyse freudienne, lacanienne, jungienne, psychoanalyse, psychodynamique, psychologie complexe. Putain, mais on va comme ça.
Ah oui, d'accord.
Donc, de quoi parle-t-on ? Moi, je parle de la place de quelqu'un qui est formé d'une certaine façon à la psychanalyse freudienne, d'une autre façon à la psychoanalyse jungienne, et puis qui a quand même fait une grande tranche d'analyse perso avec un lacanien, déjà d'entrée. Ça m'évite déjà d'être un homme de chapelle. Voilà. Et sur un temps qui est une quinzaine d'années quand même, mine de rien, ce que je viens de dire là, sans compter d'autres choses. Ça a fait que moi, ça m'a rendu, je ne rends pas compte dans mon trajet clinique de la psychanalyse. Je rends compte de moi, Jean-Jacques Gérard, avec les outils que j'ai acquis en faisant le chemin avec différentes psychanalyses.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs psychanalyses.
Tout à fait. Vous avez même des gens. Psychanalyse corporelle, psychanalyse existentielle. Vous voyez, je ne les avais pas cités, celles-là.
Oui, non. Je
plus encore d'autres.
Parler de celles-là.
Donc, quand on dit, vous comprenez avec moi, et les auditeurs comprendront, mais quand on dit la psychanalyse, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est un raccourci qui nous aide. Mais en même temps, on n'a pas tout dit.
C'est trop générique pour être précis par rapport à ça.
Voilà, ce n'est pas juste en étant générique. Si c'est générique, ce n'est pas juste. Donc je crois que c'est important de rendre à chacun ce qui lui appartient. Perso, c'est toujours un chemin personnel, même si les autres s'en défendent. Et moi, j'ai appris aussi, parce que j'ai fait beaucoup de travail psychocorporel, j'ai développé en moi une certaine sensibilité, autrement dit la mienne. J'ai réveillé en moi, et tant mieux, un certain nombre de zones sensorielles, qui fait que très vite, j'ai des auteurs comme je l'ai cité tout à l'heure, Dan Stern, Cyrulnik aussi, ouais, qui s'est vraiment penché superbement dans un langage qui est le sien. Il y a aussi John Bowlby aux États-Unis dans les années 50, aux années 80. Voilà trois pionniers du langage du bébé. Ils ont su attirer mon attention sur l'importance du langage du bébé et alors en ce qui me concerne, du langage du bébé chez l'adulte.
Et par rapport à ce dont on parle aussi, du langage du bébé qui ne peut pas être exprimé, parce que ce qui nous marque dans l'inconscient et qui fait qu'après on a des problèmes, c'est des fois cette impossibilité de s'exprimer. Ou
alors elle ne peut pas s'exprimer, elle ne s'exprimera pas dans du verbal, entendons-nous bien.
Ouais.
Même un patient adulte qui maîtrise relativement le verbal, à un moment donné, il va sentir, ça va être de l'ordre du plus fort que lui. Mmh. Ça va se traduire quand même. Si on y est sensible, on va bien des mimiques, une émotion particulière à laquelle consciemment le patient ne peut la rattacher à que dalle. Et en même temps, à un moment donné, comme par hasard, par le rêve, va arriver un rêve avec un bébé. Et là, on va faire parler, on va mettre au travail, c'est comme ça qu'on dit, ce rêve du bébé avec le patient. Et pas à pas, il y a deux aspects qui vont commencer à se parler entre elles. Mais effectivement, ça vient appeler du non-verbal. Il y a vraiment du non-verbal. Des angoisses, certains types d'angoisses d'abandon, qui sont les angoisses les plus terribles qu'un petit homme peut éprouver. Eh bien, la plupart, ou beaucoup, viennent de l'histoire bébé. Et elles sont nettement plus fortes que nous. Mmh. C'est la personne qui vous dit, mais j'y peux rien, je le vis comme un abandon. Je pense à une patiente la semaine dernière, mais c'en était pathétique. C'en était pathétique. Elle était piégée dans une angoisse d'abandon. Et elle, on n'est pas. Il me semble qu'il faudra que le travail avance encore un peu plus pour qu'elle puisse bien capter et qu'on va à tous les coups rencontrer aussi la part bébé qu'il y a dans cette angoisse.
C'est Guy Bedos qui parlait de son syndrome de l'abandon. Qui
ouais.
laissait cette peur permanente ou même des fois il expliquait que sa femme était partie d'un côté dans un resto routier, hein. Elle était pas loin, mais le fait de plus la voir dans sa tête, elle l'avait abandonné, il était en permanence
et en
ça.
Même temps, je peux vous assurer que s'il en parle comme ça, Bedos, c'est que c'est pas que dans sa tête, c'est dans ses tripes. Les peurs, elles viennent pas de la tête, elles viennent des tripes, c'est tripal une peur. Et donc quand on est pris dans une angoisse dite d'abandon, c'est pas la tête, c'est les tripes. C'est un appel puissant. C'est vraiment, ce sont des angoisses très, très puissantes.
Elle remonte aussi à une histoire dans notre enfance, petite enfance.
Elles ont leur propre histoire. Mais bien entendu, il y a ce que ça vient dire aussi, je vois l'autre jour avec la personne qui fait le ménage, j'ai plaisanté un peu avec elle, mais ça m'a rappelé un truc tout simple. La plupart de mes semblables de mes compatriotes, congénères, etc., se rendent pas compte combien toutes les histoires non réglées, perturbatrices de leur enfance, combien elles sont activées dans le présent. Les gens ne se rendent pas compte. Encore une fois, on revient du côté du non-conscient. Mmh. Ils s'en rendent pas compte du tout. C'est à l'occasion d'un travail psychologique qui arrive à chaque fois parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des crises. Sans ça, personne ne se rend compte de ça. Il faut quand même le ramener. Alors, ça peut être très impressionnant, ce que je dis. Ça n'est pas moins réel. La plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte que toutes ces histoires-là sont activées dans leur présent.
Dans leur présent.
Oui, dans le présent.
C'est quelque chose du passé qui est imprimé encore aujourd'hui.
Mais Bedos, quand il voit sa femme, il est au présent. Oui, et à un moment donné, il se paye une trouille qui va le dépasser. Cette trouille, elle a une histoire, mais c'est certain. L'histoire, c'est à tous les coups, maximum entre 0 et 4 ans, à tous les coups. Mais il n'en a plus conscience. C'est terminé. Sauf que si à un moment donné, ça craque de trop, il ira voir un psy. Je lui souhaite, comme à chacun, de pouvoir rencontrer un qui peut l'accompagner là-dedans, ce qui est encore une autre paire de manches, qui peut l'accompagner là-dedans, pour pouvoir enfin, ce qui doit être extrait de ce qui vient de soi, enfin puisse trouver un lieu et une relation qui favorise ça. C'est ça mon boulot.
Ça nous amène sur un des thèmes du sujet d'aujourd'hui, sur le dialogue avec l'inconscient, le grand autre. Ce sont les peurs. Non.
Ça fait partie des trois grands thèmes. Il y a effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que je vous disais que j'avais à peu près repéré trois thèmes majeurs dans le dialogue avec l'inconscient, qui sont assez simples dans le fond à énoncer. C'est le travail psychologique du clinicien qui se penche sur l'autre en souffrance. On va travailler beaucoup. Ce qui va émerger, c'est beaucoup de peur. Ce qui va émerger, c'est ce que d'autres que moi, et avec moi inclus, on a appelé les identifications. C'est-à-dire, les identifications, c'est-à-dire, ça pourrait se dire comme ça, pour qui tu te prends ? Quand on dit pour qui tu te prends, ou on dirait ici, tu as vu l'autre, il a le melon. S'il a le melon, c'est qu'il se prend pour quelqu'un. Et quand il se prend pour quelqu'un, c'est évidemment pas lui. C'est-à-dire, il se prend pour quelqu'un d'autre, mais il ne le sait pas.
Quelqu'un qui croit au-dessus, en plus.
Souvent. Voilà, mais au-dessus ou en dessous. Non, vous avez toutes sortes de... Ouais. C'est là, une personne qui se prend pour une merde, elle est identifiée à Cosette, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Elle est identifiée à Cosette, mais elle est pas, mais elle ne le sait pas. C'est-à-dire que pour elle, c'est « je suis une merde ». Celui qui se prend pour un cador, c'est « je suis un cador ». Pour le psy que je suis, tout ça est révélateur de plein de choses, mais certainement pas d'une vraie identité.
D'accord.
Donc, ça s'appelle les identifications. Et je rajoute qu'elles sont pour la plupart pas conscientes.
Alors, mais ça peut être aussi dans le travail. On peut s'identifier complètement parce qu'on a un poste.
Tout à fait.
Ministre de l'Intérieur,
tout
par exemple.
Tout à fait. Ministre de l'Intérieur
par
qui
exemple.
Se prend pour...
oui, voilà.
Qui se, ou de l'extérieur. Mais à la limite, mais même le psy, même à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui se prend pour un psy. Alors, il y en a plein. C'est toujours une société de conso comme la nôtre. Hein. Vous avez la personne qui se prend pour un psy. Mettons qu'il a fait 2-3 bricoles, un peu d'hypnothérapie, machin express, le travail émotionnel express en 2-3, si vous voyez ce que je veux dire, plus machin, ça y est, je mets ma plaque.
C'est bon, j'ai ma plaque. Donc, voilà. je suis un thérapeute.
Je suis un thérapeute, j'ai ma plaque. Il se prend pour sa plaque. Il ne se rend pas compte, il ou elle, bien entendu, ne se rendra pas compte de tout ce qu'il projette sur cette plaque qui révèle, pour le psy que je suis, non pas son aisance et sa compétence, mais plutôt qu'il est paumé.
Et là, c'est vraiment l'inconscient qui lui fait faire tout ça
mais,
pour cacher...
Alors, on a l'impression qu'il est aux prises... Non, attendez, on ne dit pas l'inconscient. Il est aux prises avec tout un tas de choses qui ne sont pas conscientes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour le saisir de façon plus dynamique, si je puis dire, plus vivante, c'est pas l'inconscient. Il n'y a pas une entité, une niche quelque part. Mais on peut dire qu'il est gouverné par des choses qui ne sont pas conscientes. Ouais. Donc, il va mettre sa plaque, il va recevoir 2-3 personnes auxquelles il va raconter toutes sortes de conneries. Au bout d'un an, sa plaque, il va l'enlever, comme me le disait une thérapeute qui fait l'hydrothérapie du côlon. C'est tout simple. Hein.
Oui.
M. Gérard, j'en ai vu dans mon secteur une centaine s'établir avec plaque sur un an. Et 6 mois après, il n'en restait déjà plus que 50. Voilà de quoi on parle. Et il y en a de plus en plus. Donc, on se plaque.
C'est vrai qu'on a une marée, là.
Une marée. Ouais. Alors, on placarde. Et on en oubliera, bien sûr, tout un tas de choses. Pour moi, effectivement, ces gens-là sont d'abord des ignorants de la psychologie.
Ils peuvent être dangereux, parce que si ça
s'adresse... Je suis complètement d'accord.
Si ça s'adresse à des personnes qui sont en souffrance, en prétendant avoir une plaque...
Dans le meilleur des cas, ça réglera rien. Ouais. Et dans le pire des cas, ça peut effectivement être dangereux, selon la façon dont ces personnes sont prises avec ce qui, en elles, n'est pas conscient. Et selon le niveau de cette non-conscience, selon les traumatismes qu'elle-même a subis, il peut se passer des drôles de trucs, je suis bien d'accord avec vous.
Alors là, l'indicateur, c'est quand la personne met beaucoup en avant sa profession ou sa plaque ? On le sent au bout d'un moment ?
Moi, je pense que j'invite nos auditeurs, auditrices là, à vous écouter. C'est-à-dire, à la fois, ceux qui ont besoin de rencontrer un psy, ils ou elles le savent. Voyez-en plusieurs. N'hésitez pas à leur demander leur parcours. N'hésitez pas à leur demander la longueur du travail personnel qu'ils ont fait. Non pas au sens que le disait un autre jour quelqu'un, je travaille sur moi parce que je pense. C'est pas suffisant. Je pense et je tourne en rond. Non. Le travail accompagné psychologiquement qu'ils ont fait. Combien d'années quel type de thérapeute? Est-ce qu'ils peuvent en parler facilement c'est toutes des questions comme ça que j'invite nos auditeurs et auditrices à poser. Quel est son parcours? A-t-il fait un travail didactique? Comment? Sur combien d'années? Est-il en supervision? Voilà 3 questions majeures. Et l'autre question qui n'en est pas une, c'est laissez-vous sentir si vous vous sentez en confiance. Voilà ce que je dis.
Pardon? Laissez-vous sentir?
Sentir, à l'occasion
à
des rencontres du psy.
En tant que patient, par
exemple. Oui, en tant que patient.
Est-ce qu'on se
si
sent
vous vous
confiance,
sentez en confiance avec ce bonhomme-là?
La question qu'on se pose.
Tout à fait. C'est-à-dire, même si j'entends bien qu'il est difficile de vous fier à vous, mais quand même, essayez de vous y fier un peu. Quand vous ne prenez pas de décision tout de suite, sortez de chez le psy, réfléchissez quelques jours, laissez-vous sentir si vous êtes senti suffisamment à l'aise.
C'est important ce que vous dites, parce que justement, de façon non consciente, on a tendance à se dire bah, c'est lui qui a raison et j'ai tort, le psy, hein. Le monsieur avec la plaque, on va voir. Donc on y va et on va abandonner.
Alors si effectivement peu, voilà. Vous êtes dans ce jeu de tort et raison, c'est déjà mal barré. Parce qu'il ne s'agit pas ni de tort ni de raison. Quand on est dans tort, raison, on est dans les relations
ouais, mais
de
comprenez
pouvoir.
Bien, quand on va voir un psy, c'est qu'on se pose plein de questions.
C'est qu'on n'est pas bien.
Voilà, donc on se dit peut-être que lui a la clé.
Oui, mais ce que je raison, dis moi, on se dit tout ce qu'on veut.
Oui.
J'indique simplement aux auditeurs et auditrices que si c'est possible, posez-leur des questions de cette nature-là.
D'accord.
Ah, si elles ne les posent pas, tant pis. Elles verront bien ce qui va se passer. Mais vous êtes légitimé de par votre démarche. Ce n'est pas parce que vous êtes en souffrance que vous devez être a priori moins que rien ou en dessous de tout. Pas du tout. Vous êtes en souffrance, point. Comme le dit Khalil Gibran, un bateau en dérive n'est pas un repère de brigand. Il n'est qu'un bateau en dérive. Point. Ça, j'adore. Il n'y a pas de jugement.
Oui, donc c'est pas parce qu'on est en souffrance qu'on doit se taire aussi, donc c'est ça que...
Qu'on doit
bah, se taire, et,
se
pas,
taire
poser,
tout à fait.
Et pas poser la question et perdre son ouais, identité.
Oui, ou voilà. Un petit peu de poser la question, c'est pas rien de se confier à l'autre. C'est pas rien de se confier à l'autre. J'ai besoin d'un espace de parole très sécure. J'ai besoin de sentir que l'autre est attentif. J'ai besoin de sentir que l'autre, non seulement il m'écoute, mais il peut m'entendre, ce que je vous disais tout à l'heure. Il suffit pas d'écouter pour entendre. Donc j'ai besoin de vérifier. Donc le patient, il a besoin de sentir que le psy, c'est un semblable quelque part. Il va pouvoir vérifier. En ce qui me concerne, c'est tout le temps. Je viens de dire ça, mais qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous entendez dans ce que je dis? Et on vérifie. C'est-à-dire, on ne prend pas l'autre pour un imbécile. L'autre, c'est l'autre, il est en souffrance. Et on considère cet autre. C'est un humain comme moi. Donc ça, vous voyez, ça suppose qu'on soit décollé de la plaque.
Et de l'ego, qu'on ait mis de côté son ego.
Décoller de la plaque. Ouais. J'évite d'utiliser ce genre de mots parce que c'est des paniers de crabes, ça.
D'accord.
Décoller de sa plaque.
Ok, on n'est pas ce qui est écrit sur la plaque, on est un être humain.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Mais si possible, un être humain compétent, puisqu'on a une proposition vers l'autre. Vérifier la compétence par rapport à trois critères, le travail et le nombre d'années qu'il a pu faire de travail sur lui. Ce n'est pas la valeur qui est sur le nombre d'années, mais quand même. Entre 2 semaines et 20 ans, il y a de la marge. Le travail didactique, si possible plusieurs écoles sur un certain nombre d'années parce que ça évite d'être pris dans le piège des dogmatismes.
Se vendre une chapelle, quoi. Enfin,
c'est ça. Voilà. Et ça me paraît tout à fait important quand on est au service de l'humain de ne pas être piégé nous-mêmes. C'est pour ça que je faisais ce rappel tout à l'heure sur la psychanalyse et les psychanalyses.
C'est ce que j'allais dire, c'est que justement, derrière les professionnels de la psychanalyse, il y a aussi des gens donc, qui... sans en avoir conscience, travaille pour autre chose. Quoi.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se prétend psychanalyste, c'est pas parce qu'on se prétend psychanalyste, j'allais presque dire, qu'on l'est. Ouais. Et que des fois, on croit qu'on l'est, et c'est encore une autre image. Donc ça invite quand même beaucoup de modestie, c'est-à-dire d'humilité, dans le fond. Et plus on approfondit ce type de travail-là, mais plus ça nous invite à de l'humilité. De l'audace, oui. Mais en équilibre avec l'humilité.
D'accord. C'est vrai qu'ils sont rares, je pense, les professionnels de la santé à qui on peut demander leur cursus et qui vous répondent sympathiquement sans se sentir agressé.
Ouais.
J'ai essayé chez le dentiste, ça n'a pas marché du tout.
Mais jusque-là, je suis d'accord avec
comme
vous.
Comme si on blessait quelque chose.
Ouais. Voilà. Donc,
si on mettait en doute.
Mais
voilà.
c'est chouette ce que vous dites, parce que ça va complètement dans le propos. Si le dentiste, il n'est pas aux prises avec une image, ce que vous appelez l'ego, j'entends bien. Mais s'il n'est pas aux prises avec ça, il accueille votre parole. Et il doit pouvoir être libre de pouvoir vous donner des infos parce que vous êtes un patient et quelque part, en venant le voir, d'une certaine façon, vous lui faites honneur. Et on accueille l'autre qui nous fait honneur. Il fait honneur quelque part. Mais ça suppose d'être dégagé de toutes ces espèces d'images à la con.
C'est un peu l'ancien monde, entre guillemets, ou un jeu de marionnettes, quoi. Je suis le docteur, je suis le pharmacien, je suis le curé du village. On joue des rôles.
Mais l'idée,
comme ça.
C'est ça. Donc l'identification, c'est quand on se prend pour.
Ouais, voilà.
C'est par là qu'on est arrivé. Hein.
Mais ça peut être n'importe qui, donc. Le professionnel de santé.
Ah, tout à fait.
Ou du bien-être.
Oui, tout à fait.
D'accord. Donc on a parlé des peurs.
Ouais. C'est les peurs et les identifications.
Qui nous façonnent.
Pour et qui
après,
je me prends.
Voilà. Et puis après, on a tout ce qui est besoin. Et là, on le voit aussi chez l'enfant très souvent.
Donc j'avais évoqué effectivement les choses. Alors le contexte, c'est que j'ai évoqué perso les trois mots qui me paraissent les plus importants que je vais rencontrer en permanence, relation aux peurs, relation aux identifications. Je vous en donnerai un exemple qui me paraît tout à fait intéressant, qui rassemble en deux phrases l'esprit de ces histoires d'identification. Et puis, donc, peur, identification et le rapport à nos besoins.
Les besoins,
ouais. On pourrait comprendre que quand... Alors là, je le situe délibérément du point de vue de la clinique. Quand les personnes viennent, elles sont aux prises avec des peurs. N'importe lesquelles de nos auditeurs auditrices pourraient se reconnaître là-dedans. Elles sont prises avec des peurs. Les peurs peuvent être liées aussi à pour qui elles se prennent. C'est-à-dire, quelque part, dès l'enfance, on s'est moulé dans les attentes des parents, des instits, des autres, complètement extérieurs à nous. Et on a été conditionnés par rapport à une idée d'image. Mmh. Et donc, quelque part, tout ça, ça a complètement biaisé le rapport à nos besoins. Mais ça a d'autant plus biaisé que très souvent, on exprimait des besoins, on ne savait pas toujours les exprimer, mais mettons qu'ils n'étaient pas reçus, ces besoins, y compris les besoins de tendresse. Et bien, à un moment donné, on va bifurquer. Mmh. Au nom de... Si t'es gentil, alors on va essayer de savoir ce que c'est que d'être gentil, on va se créer une image de gentillesse, et puis c'est plus tard, on entendra des gens qui vous disent « Ah mais moi je me connais, c'est parce que je suis trop gentil. »
C'est vrai, il entend souvent.
Je ne sais même pas de quoi il parle, mais il en parle. Trop gentil quoi? Par rapport à quoi? Et on voit bien le parfum de la morale. Si je ne suis pas gentil, c'est que je suis méchant. Donc je vais être gentil parce que si je suis méchant, je vais être rejeté, et si je suis rejeté, je suis abandonné.
On est en plein manichéisme.
Oui.
Bien, mal, gentil, méchant,
fait.
Blanc, noir.
Tout à fait. Et c'est bien évidemment ce manichéisme également, et on a certainement l'occasion de le reprendre, qu'on va retrouver à la cour d'assises.
Ouais, c'est parce qu'on le reprend, ça nous dirige complètement. Alors là, c'est vraiment l'inconscient, là aussi.
Mais on est tout à fait.
Parce qu'on est complètement dirigé par ça.
Tout à fait.
Il faut faire un effort.
Et dis, maman, je suis gentil, là. Mais oui, t'es gentil, tu viens de mettre la table. Mise de table égale gentille. Bon. Oui. Et ça, au bout de 5 000, 100 000 fois, 10 000 fois,
mais même quand on regarde
l'image,
la télé...
elle est construite. Elle est construite au détriment de quoi? Elle devient surimprimée sur les besoins qui sont sous-jacents. Mais ça veut dire aussi qu'un certain nombre de mes besoins, y compris des besoins de reconnaissance de qui je suis vraiment, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Autrement dit, c'est l'aliénation de soi qui va avoir la primeur.
D'accord, mais là, je réfléchissais un peu à ce bien-mal. Là, je me dis, c'est vrai qu'on l'est tous dedans, parce que même quand on regarde la télé, par exemple, bah, très bien, on se dit, oh, celui-là, il a l'air bien, celui-là, il a l'air nul, celui-là, il a pas l'air bien, celui-là... On est souvent dans ce jugement-là.
On peut le dire comme ça, mais des fois, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est parce qu'on est pris dans les images, mais c'est des fois beaucoup plus simple de dire, celui-là, je le sens pas, il y a quelque chose qui me parle pas. C'est tout simple, ça implique soi, ça dit pas l'autre est comme ça. C'est pas du tout pareil.
C'est vrai qu'on se trompe de langage, on dit...
Tout à fait.
Ouais. On dit c'est pas beau, alors au lieu de dire j'aime pas, on le dit souvent d'ailleurs aux enfants.
Une engueulade de couple, classique de chez classique. La femme dit, ouais, mais moi, tu vois, quand tu m'as fait ça, moi, ça m'a blessé. Le mec, mais ça peut être l'inverse, hein. Le mec. Ouais, mais toi, je sais bien, tu es comme ça. Tu es.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est classique. Ouais.
Mais c'est classique, mais terminé. Il dit pas, lui, ce que ça lui fait à lui, il s'implique pas. Donc on est dans un truc où il n'y a pas de communication, c'est impossible, parce que du coup on est dans le jugement, et ce que vous dites, ça témoigne de jugement, mais ça témoigne aussi qu'on n'est pas amené à s'impliquer, à dire « je ». Voilà ce que ça me fait à moi, dans les limites qui sont que je suis qui je suis.
Mais dans le thème du sujet d'aujourd'hui, c'est de façon non consciente qu'un être humain ou un homme ne va pas vouloir mettre en avant sa faiblesse et de dire oui, moi aussi, ça me fait mal. Donc il va dire toi, tu es faible ou toi, tu es...
Oui, non, mais vous entendez bien que si je suis votre raisonnement, quelque part, il, de façon non consciente, il s'est identifié à quelque chose de l'ordre du faible. Mais ça rencontre une image. Mais c'est ça rencontre une image, puisque quelque part, depuis tout petit, on lui a dit qu'il fallait qu'il soit fort et qu'il pleure pas. Donc il y a tout un tas d'associations, d'idées qui sont dans son non conscient, dont il n'est pas conscient, mais qui sont aux manettes de sa vie. C'est aux manettes, dans ses modes de comportement, dans ses attitudes. Si cette personne n'a pas un jour sur son chemin un bon cassage de gueule pour revenir à lui, alors là, il verra, il n'y a plus photo, quoi. Il ne reviendra plus à lui progressivement. Il aura besoin d'un coup de main, mais d'une façon complètement différente. Parce qu'il ne se faisait pas honneur en répondant par des espèces de clichés, des images et tout ça. Et la plupart de mes semblables sont très, très pris là-dedans. Ben, donc il y a tout un travail...
Ce conditionnement est à la base, rien que dans le genre.
Tout à fait.
Tu es un garçon, tu es comme ça, tu es une fille, tu es comme ça.
Oui, mais alors c'est...
Dans notre société, après j'imagine que dans d'autres...
Oui, mais c'est...
Et on ne le dit pas comme ça en plus.
Oui, non, c'est pas dans le genre, parce que les genres sont différents, de fait. Je veux dire, si on nous met à poil, on n'est pas pareil.
Oui, non, mais donc, un garçon doit être comme
c'est
ça.
C'est ce qu'on fait avec le genre, ce qui n'est pas pareil. Oui. Ce qu'on fait avec le genre, c'est-à-dire des clichés. C'est-à-dire des clichés, c'est terrible.
Le garçon joue aux voitures, la petite fille aux poupées.
C'est ça. Donc là, on est dans les conditionnements sociaux. On est dans les conditionnements sociaux qui enferment la personne.
Oui, mais qui manipulent notre inconscient. Alors.
Ouais, non.
Puisqu'après, on
ça
va agir.
Ça enferme la personne. La personne, elle enregistre toutes sortes de choses. Surtout bébé, et même petit, c'est là où on est le plus perméable. On n'a pas encore développé des mécanismes de protection que certains appellent des mécanismes de défense. Donc, dans tous les cas, on est agi de façon inconsciente. Les peurs, tout ça, c'est infiltré par tout un tas de peurs. C'est pour ça que je vous dis le mot peur est important.
Ouais.
C'est infiltré. Je vais vous donner un exemple par rapport à l'identification. C'est une patiente qui vient voir en première rencontre et qui me dit « Je viens vous voir parce que je ne sais pas qui je suis. » Je ne sais pas qui je suis. Et moi, je lui ai répondu, ou je lui ai fait retour, mais peut-être vous allez découvrir qui vous n'êtes pas et que vous avez cru être. Ça l'a complètement scotché, ça. Elle n'avait pas pensé les choses dans ces termes-là. Et j'ajoute, chemin faisant du travail que nous pourrions faire, vous vous apercevrez que la question « qui suis-je ?», elle ne se pose même plus, il n'y en a plus besoin. Ça veut dire sous-entendu ou entendu, vous êtes qui vous êtes. Point. Il n'y a plus de qualificatif, il n'y a plus de jugement, ni en bien, ni en mal. Nous sommes qui nous sommes. Donc c'est tout un chemin pour arriver jusque-là.
Bah, c'est hyper compliqué, on est tous là-dedans, en train de se dire est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien, est-ce que j'ai une belle veste aujourd'hui, est-ce que je suis bien habillé,
on est tous,
qu'est-ce qu'il pense de moi celui-là.
Oui, non, il y en a, tant qu'ils ne sont pas en souffrance, ils y sont. Personnellement, c'est des choses qui m'ont fait souffrir, donc je les ai travaillées.
Mmh.
Donc évidemment, que quand moi je vous parle, je pense que je parle aussi de choses que j'incarne. C'est-à-dire, je les ai travaillées. Et c'est parce que je les ai travaillées que je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, j'ai été moi-même l'esclave de ce genre de conditionnement.
D'accord.
Mais on n'est pas tenu à être toute sa vie l'esclave. C'est pour ça qu'il y a des psys aussi. Parce qu'à un moment donné, on est en souffrance. Il y a une sensibilité. On se ramasse des gadins. On se trompe de partenaire de vie. Toutes sortes de choses. On se trompe de boulot.
On
croit que le boulot, comme je disais l'autre fois, le mot travail, qui veut dire un instrument de torture, eh ben, toute sa vie, il va falloir se faire chier. Parce que c'est ça la vie.
Ouais.
C'est ce qu'ils nous disent les plus grands ou plus petits. Ça ne donne pas envie, hein.
Du coup, quand on a un travail qui est bien, qui nous plaît, on culpabilise ou on se pose des questions.
Non, mais
est-ce que c'est un vrai boulot ou pas ?
On n'est pas obligé. Je peux penser que sur le lot, il y en a quelques-uns qui ont eu quand même des enfants suffisamment tendres et suffisamment bonnes. Ça aboutit à quoi ? Qui trouvent de la sécurité petit à petit en eux-mêmes. Ça veut dire la confiance en soi, cette sécurité-là. Ils savent qu'ils peuvent compter sur eux et avec eux. Ils ne vont pas se choisir des boulots qui les emmerdent, hein, c'est clair. Et ils peuvent ne pas culpabiliser en faisant le boulot qui leur plaît.
Ouais. Alors cette façon d'agir malgré nous, hein,
par conditionnement,
ça me fait penser à des vieux mots, mais c'est un peu comme si on était possédé ou que si quelqu'un nous manipulait, une marionnette avec des fils. Quoi.
Tout à fait.
Et en plus, sans fil, sans marionnette. C'est vraiment flippant.
Tout à fait. Et ça fait penser à la possession, parce qu'à un niveau de langage, ça fait penser à ça. On est possédé. On est comme possédé, hein, si on faisait l'analogie avec ce qui se passait dans l'Église, relativement aussi quand même à ce contexte-là. Mais c'est de cet ordre.
On est possédé. Il y a quelqu'un en nous qui prend possession de votre corps et qui vous fait agir.
Mais tout à fait.
Ça me rappelle ça un peu, ce qu'on est en train de dire.
Mais tout à fait. Je crois que c'est
flippant.
Ouais.
Parce que du
combien
coup,
on est possédé ?
Oui, mais on l'est tous un peu finalement.
Dans une certaine mesure.
Au
mais
début,
il y a des moyens de
réduction. Au début, à partir de notre enfance, quand on nous conditionne, le garçon doit faire ceci, la fille doit faire cela, le Père Noël existe, etc. Après, il faut s'en sortir.
Tout à fait. Et c'est là qu'on peut comprendre que, d'une certaine façon, l'indicateur majeur, ça va être le sentiment que je suis en souffrance. Sans ça, jamais je ferai un pas. Je vais continuer sur ce chemin où je vais continuer à me prendre pour un autre. Et c'est pas grave.
Mais c'est très vicieux parce qu'on le sait pas.
Mais on le sait pas, oui, mais la vie se charge.
On s'aperçoit, on se prend des croche-pieds, on commence à tomber.
La vie se charge de nous. Maintenant, malheureusement, parfois, on va pas forcément frapper aux bonnes portes. Et du reste, c'est une de mes motivations quand je viens vous voir, c'est d'essayer de donner des indications via un échange tout à fait facile, simple, pour que les auditeurs comprennent. Comme je dis, simple, mais pas simpliste, parce que les uns et les autres apprécieront que c'est quand même assez compliqué pour pouvoir parler de ces choses, où la plupart du temps, on nous les sort dans un langage complètement obsolète, que personne n'a accès, et d'arriver à pouvoir dire avec des mots simples ce qui est dans le fond, ce qui est notre quotidien. Et c'est par là que les gens peuvent commencer à sentir. Vous avez plein de personnes, peut-être certainement parmi celles qui nous écoutent aussi, qui peuvent se dire, mais putain, mais ouais, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion l'autre jour. Ah d'accord, je comprends mieux ce qui m'est arrivé. Ça me dépassait en fait. Je réalise que ce qui se passait l'autre jour, là, à écouter le psy là, qui nous cause, mais ça nous dépassait complètement. J'étais à l'ouest et j'osais pas me le dire parce que j'avais un peu honte, etc. etc. Mais tout ça...
Honte de ne pas comprendre, c'est encore le même jeu alors. Si on a honte de ne pas pouvoir comprendre, c'est parce qu'on est dans un jugement qu'on nous a inculqué quelque part ou...
C'est en nous à un moment donné. C'est comme je dis, des fois, on n'a plus besoin de nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire dans les limites souvent complètement tartignoles. On s'est avalé ce qu'on s'est avalé et on se le sert.
Mais on le resserre à nos enfants parce qu'on est aussi des parents tartignoles.
Tout à fait.
C'est un cercle infernal.
Tout à fait. Mais j'ai quand même l'expérience et quand même d'avoir évolué à l'intérieur de ces chemins de telle sorte aussi à avoir de fait un fils qui en partie est témoin. Donc je suis père. Il y a mon fils qui est vivant, Samuel. Et que les échanges qu'on peut avoir ensemble, l'un avec l'autre, mettent en lumière ce que je vous dis, c'est-à-dire aussi les carottes ne sont pas cuites. Si plus les parents vont avoir conscience, mais il faut qu'ils se fassent aider à tous les coups, et pas par des plaqués, si je puis dire, et plus ils vont avoir conscience, plus le rapport aux enfants bouge. Moi, je ne suis pas un psy qui indique aux parents « amenez vos enfants chez le psy », pas du tout. Mais si vous voyez clair en vous, vous allez voir. Et je le vois tout le temps. Et moi, je fais le pari sur les parents, sur leur capacité de trouver eux. Mais il y a besoin certainement souvent d'aller voir un psy.
Il faut être aidé un peu.
Au moins un peu. Et des fois un peu plus, et c'est OK. Mais ça a des conséquences incroyables.
Parce que je vois tellement de parents en ce moment qui sont au bord du burn-out. On en parle hein, d'ailleurs, du burn-out.
Ça s'appelle l'épuisement professionnel.
Ouais.
Ou la dépression.
Ouais, mais vous en voyez souvent aussi arriver en ce moment des parents qui sont complètement épuisés, débordés. On ne sait pas d'où ça vient.
Attendez.
J'attends.
Si on reprend les mots épuisement professionnel, vous m'excuserez, mais moi les anglicismes, ce n'est pas mon truc. Je connais l'anglais, je parle l'anglais. Mais vraiment, j'en ai ras-le-bol. C'est pour ça que je me permets de reprendre l'épuisement professionnel. Quand vous avez d'une personne, tout de suite, je pense à une de mes patientes. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, qui m'a parlé dans ces termes-là. C'est-à-dire, je reprends exactement ce que vous me dites.
Je suis au bord du burn-out, elle vous a dit.
Elle a commencé, puis effectivement, elle a conçu que c'était aussi... Elle a une certaine honnêteté intellectuelle. Elle se dit, merde, il a raison, le psy, quand même. Enfin, je suis d'accord avec lui. C'est pas pareil qu'il a raison, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il dit, bon, oui, et puis c'est des jolis mots qu'on on, tout de suite... Hein, je suis épuisé, quoi. Professionnellement épuisé. Alors, quand on en arrive là, c'est un symptôme. C'est un symptôme, il ne faut pas se gourer. C'est-à-dire, il s'en est passé avant, des tonnes. Et à l'intérieur de moi, la pression, tu dois, il faut, il y a qu'à. Et petit à petit, quand on a l'épuisement professionnel, on a en même temps, je dirais même en sous-jacence, j'en peux plus. Ça veut dire j'en peux plus. C'est un moment où là, il devient très... C'est comme quand quelqu'un est envie de se foutre en l'air, de se suicider. Il y a un moment où il fait un appel. Il vaut mieux l'entendre. C'est tout. Il vaut mieux l'entendre. Cette personne, elle est venue chez le psy, elle lui a dit « j'en peux plus ». Le psy a reformulé en disant « ce que j'entends, c'est que vous n'en pouvez plus ». Toute la question va être « de quoi, comment, par quel chemin ?» Et là, après, c'est le fil qui va se dérouler de séance en séance. Et cette personne, elle s'est ébouffée tout un tas de trucs, celle à laquelle je pense. Violée, en plus, à l'âge de 4 ans. Ça, c'était passé dans les oubliettes, mine de rien. D'accord ?
Elle ne s'en rappelait plus non plus. Enfin,
non, c'était pas non, parce que c'est tellement terrible que c'est refoulé, ça aussi.
On le cache.
Ça aussi, mais seulement refoulé, ça veut dire aussi que ça va conditionner tout le reste de la vie. Vous avez des personnes qui redécouvrent quelque chose qu'elles avaient enfoui, croyant, et légitimement, il ne s'agit pas de les culpabiliser, croyant s'en sortir, mais on ne s'en sort pas. Mais là encore, c'est encore autre chose. Je me permets au passage de le dire, c'est de trouver vraiment des psys qui sont à l'écoute de ça. Il n'y en a pas beaucoup, je le déplore. Je le déplore. Humainement, c'est très important qu'il y ait des psys qui savent... Bon, ça, c'est le côté victimologie clinique. De pouvoir bien écouter ce qui est aussi dans le non-verbal. Tiens, le non-verbal. Quand vous avez un minot, comme j'en ai connu un, à l'âge de 2 ans, son grand-père le sodomisait. Quand ça va ressortir après...
À l'âge de 2 ans, bah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas le mémoriser comme ça.
Et bien, ça va ressortir dans le corps, dans des mouvements. etc., etc.
Dans des peurs, dans des pulsions.
Dans des identifications. Oui. C'est-à-dire, il, pour s'en sortir, il va essayer de se raconter un film de héros. Alors celui-là, il va être un grand héros. Il va se prendre pour un héros.
Ouais, ça va le sauver peut-être aussi. Piégé. Oui, mais ça peut le sauver aussi pendant un moment, non ?
Pendant un temps, ça va lui permettre de survivre.
Ouais.
Mais ça dure, selon la nature du héros, ça ne va pas durer très longtemps. Il va se ramasser des tartes, il ne saura pas d'où ça vient.
Je reviens sur nos parents, là,
les
croyances. Justement, ça me fait penser à ça, parce que c'est vrai qu'on est dans une vague de croyances chez les parents, où on parle beaucoup d'éducation positive, où on n'a plus le droit de dire non à l'enfant, on n'a plus le droit de crier, etc. Et souvent, ça crée un espèce de... Je sais pas comment dire. Les parents se sentent dépassés quand ils piquent une colère, ils sont démoralisés et ils sont à bloc là justement. Ils sont sous pression tout le temps, en disant je suis positif, je suis pas positif, je suis pas un bon parent, j'y arrive pas.
Et ça pète un plomb. C'est le moment de consulter. Alors là, faut pas se louper dans la consultation.
Ah ouais.
Ben oui, c'est le moment de consulter un psy. Pour les parents, j'entends, pas pour les enfants.
Quand on commence à piquer des colères et qu'on
mais non, mais c'est-à-dire quand j'y arrive pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me sens impuissant.
Oui, mais parce qu'on est plein d'idées,
oui,
de
mais
croyances.
Oui, mais ils ne pourront pas s'en sortir comme ça.
Ouais.
C'est, j'ai bien entendu, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ce n'est pas à coup de grandes paroles, pas du tout. Uh-huh. C'est un vrai travail psychologique, ce n'est pas par hasard s'ils sont là. S'ils en sont là. C'est pas par hasard s'ils se sont gobés comme des mouches tout un tas de conneries du soi-disant psychologie positive. C'est pas par hasard, mais ça marche pas. On est dans un autre axe, évidemment, qui n'est pas mon choix, vous l'entendez, qu'on pourrait dire dans la grande sphère du comportementaliste.
Exact.
On est dans la grande sphère du comportementaliste. Et moi, je sais que ça marche pas. C'est pas par là qu'ils vont humaniser leur relation à eux-mêmes et à leurs gamins. Donc, si vraiment ça leur fout les boules, il faut qu'ils aillent consulter un psychologue clinicien. Je suggérerais plutôt de formation analytique, mais si possible de double formation. C'est ce que je reviens, c'est cette nécessité de ne pas être le psychologue d'une chapelle. Voilà.
Ouais, mais en parlant de ce thème là, des parents ou même les propriétaires de chiens, parce qu'on est pareil, on est dans l'éducation positive absolue, il faut jamais dire non. Est-ce que c'est pas justement une histoire d'identification ? Je m'identifie, je me dis tiens, je suis un bon maître, donc je vais être un maître positif avec une éducation positive.
Je sais pas, je crois que là, moi, je sais une chose, c'est que je repère très très vite les gens qui se piègent dans le comportementalisme. Alors ça, je le repère à tout berzingue. Ils s'y perdent, mais qui s'y perdent ? Moi, j'y peux rien. Simplement, quand c'est un patient qui a une demande, là, on va faire un travail. Sans ça, ce serait que je mettrais quoi ? Je mettrais une autre croyance en face d'une croyance. Ça ne fait pas. J'ai pas. En plus, je serais pas du tout un conseiller. Je suis pas conseiller du tout. Ça m'intéresse pas. On m'a demandé déjà d'enseigner. J'enseigne pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est spécifique à moi. Hein. Pas du tout. Je pense que les personnes avec lesquelles je fais le meilleur boulot, c'est avec mes patients. Moi, toute mon énergie de psy, elle est dans la clinique, c'est-à-dire avec mes patients. C'est-à-dire des gens qui ont une demande, des gens qui se sentent en difficulté. Et c'est le point de départ et qui ont un vrai désir d'un mieux-être, quelque part. Il y a les deux. Je me sens en difficulté, j'ai le désir d'un mieux-être. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire grand-chose.
Oui, mais des fois, on est le membre de la famille ou l'ami proche qui voit la personne piquer des crises et changer. Et il sait pas
il faut lui conseiller un bon psy.
L'ami proche,
il veut rendre service. Il dit, écoute, j'ai essayé de repérer dans mon environnement deux ou trois bons psys. Il me semble que là et là, j'en ai entendu parler. Tiens, va voir, va consulter. Parce que là...
On n'ose pas le dire. Hein. C'est...
Ah ben ouais, mais tant pis.
Voilà, d'accord.
Ah non, mais moi je ne suis pas sur le monoprix de la psy, pas du tout. Je sais bien, mais il y en a plein. Une qui n'ont pas à se dire, deux qui ne feront pas le pas, qui franchiront pas la porte, qui n'appelleront pas. Mais je le sais, moi j'y peux rien. J'y peux rien. Mais en revanche, c'est un peu, et ça fait partie de mon style, quand j'ai su Cosmos Radio était à côté de chez moi, c'était dans ma motivation de me dire, moi je suis d'Avignon, je suis sur Avignon, non pas tant de me faire des patients, j'ai ce qu'il faut, c'est pas le problème, je suis pas clientéliste, non, mais j'ai besoin de, via la radio, de pouvoir donner des messages clairs aux gens, parce que je suis aussi un citoyen, et je sais que mes compatriotes sont la plupart du temps dans la nébuleuse, là on sera d'accord, mais j'y peux rien.
Mais quelque part on est tous.
Oui, mais oui.
Dans des nébuleuses.
Moi, quand j'étais dans les nébuleuses, à différents moments, vous le savez de mon histoire. Mais j'ai consulté. Et puis, à un moment donné, j'ai pas sans arrêt trouvé des gens, j'allais dire, où ça marchait. Mais mon chemin a fait que ça a marché suffisamment pour que j'y voie clair, et au minimum sur 10, 12, 14 ans. Quoi.
Alors vous-même, quand vous, quand vous avez consulté des psys à une période où vous éprouviez ce besoin...
Oui, mais 1980, la première psychothérapeute de formation psychologue clinique.
Il y en a que vous avez laissé de côté justement parce que vous disiez ça ne va pas du tout, ce n'est pas ce que je cherche. Et vous avez quand même persévéré à en chercher d'autres.
La première psychothérapeute, oui, ça m'est arrivé une fois ça. Mm-hmm. Mais en général, je suis bien tombé parce qu'après, il y a une espèce de bouche à oreille. Puis je m'intéressais beaucoup à la psy à l'époque, même en 81. Donc il y a eu des liens qui sont faits assez facilement et je me sentais en confiance assez facilement. Et ça a répondu. Voilà. Alors, ça a dû m'arriver une fois, je crois, où là, j'ai senti que là, ça ne le faisait pas.
D'accord. Voilà.
Mais c'est arrivé beaucoup.
Mais dans ces cas-là, vous le dites ? Ou vous vous arrêtez juste d'y aller ? Dans ces cas-là, vous faites quoi ?
Ce n'est pas ces cas-là. C'est dans ce cas-là, je ne sais pas, j'ai pas de recette.
Non, mais comment vous avez réagi, vous ?
Ce qui est sûr, je pense qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, je ne vais pas prendre de rendez-vous. Et je vais dire, je réfléchirai.
D'accord.
Parce que je ne vais pas encore me remettre à me demander de dire... Non. Mmh. C'est bon.
Non, mais comme tout à l'heure, vous nous conseillez de demander au psy son cursus.
Oui.
Voilà, est-ce que vous aviez fait même chose à l'époque ou alors que,
Alors, attendez, on ne va pas se mélanger les pinceaux.
Non.
Je dis aux auditeurs, n'hésitez pas. Je ne suis pas en train de prendre mon chemin pour la généralité. Mmh. Ça, c'est important.
Non, mais moi, je me posais la question pour savoir si vous l'aviez fait, vous.
Moi, mon chemin...
Voilà, parce que moi, mon chemin, c'est de poser des questions.
Oui, oui, mais moi, le chemin que j'ai fait, personnellement, quand j'ai rencontré les psys, en même temps, je m'intéressais depuis longtemps à la psy, donc j'avais des critères. Mmh. Moi, je m'étais construit des critères.
Oui, vous connaissiez déjà... Voilà, d'accord.
Je m'étais construit des critères. Et donc, quelque part, je savais qu'en face de moi, la personne, elle était suffisamment formée. Le premier, c'était l'Institut Baudouin. Le deuxième, c'est l'Institut Jung, un des seuls instituts qui soit à peu près sérieux. Le véritable Institut Jung sur Paris. Voilà. Institut international de psychologie analytique. Voilà. Après, l'autre, c'était, d'une part, il était psychiatre, d'autre part, il était membre de la course freudienne. Et en même temps, donc psychanalyste. Le rapport avec lui est un rapport qui était très clair dès le départ. Donc, je me sentais bien. Et petit à petit, tout ça, ça a marché. Une seule fois, dans une relance, je ne sais plus avec qui c'était, où là, effectivement, je l'ai joué comme ça. C'est-à-dire, je ne l'ai pas senti. Donc, je n'ai même pas me posé de questions, moi, je n'ai pas senti. Mmh. Ça laisse entendre que je me fiais surtout à ce que je ressentais.
Mais c'est important ce que vous dites. C'est le ressenti qui vous a aussi...
Ah oui.
C'est pas l'analyse froide du scientifique qui se dit, bah là, peut-être, là, non, c'est vraiment le ressenti. Vous dites, celui-là, je ne peux pas le sentir, quoi.
C'est pour ça que
ça
je vous dis, quand je m'adresse aux gens... C'est important d'avoir des repérages en termes de compétences et ça vous donne une idée que le psy qui est en face de vous, il a fait un long chemin personnel avec différents outils. Ça, c'est bien. Ensuite, didactique, c'est-à-dire la formation des outils. Ensuite, qu'il est en supervision et qu'il y est toujours. C'est indispensable, ça. Après, une fois qu'on a fait ça, est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous sentez en confiance ? Est-ce que vous le sentez ? Laissez-vous sentir. Ça, je ne peut pas faire l'économie de dire ça. Mmh. Laissez-vous sentir. Se sentir en confiance. Je me sens bien avec lui. Le nombre de patients qui, à l'issue de la première séance, est tant mieux. C'est-à-dire, comment vous êtes senti ? Très à l'aise, M. Gérard. Très détendu. Même, j'ai pu poser les choses. OK, alors qu'est-ce qu'on décide ? On se revoit, vous prenez du temps, comme vous voulez.
Mmh. Et vous leur demandez ça aussi.
Ouais. Voilà. Mmh. Comment vous voyez les choses ? Laissez-vous sentir. Le psy. Laissez-vous sentir à l'aise, pas de pression. Bon, deux fois, allez, non, quatre fois sur cinq. Non, monsieur Gérard, on prend rendez-vous. Oui, en plus, bon, c'est chargé, hein, donc si on ne prend pas rendez-vous là, peut-être dans un mois, j'en sais rien, moi.
C'est vrai. Le premier rendez-vous, c'est comme chez le dentiste, il faut attendre deux mois ou on peut trouver des
crédos. Non, s'il faut attendre deux mois, j'en vais chez quelqu'un d'autre.
D'accord.
Okay. Non.
Non, je ne sais pas, je demande parce que je n'y suis jamais allé, moi, chez le psy. Peut-être qu'il faudrait.
Non, deux mois, ça fait long quand même. La personne qui en demande, relancez-moi dans deux mois. Et en plus, il y a un doute. Il y a un doute, hein. Relancez-moi dans deux mois, ce n'est pas certain. Enfin, non, 15 jours, c'est le max. À partir du moment où j'ai la personne au bout du fil. Hein.
D'accord.
15 jours, c'est le max. Parce que quand les gens, ils ont fait ce chemin, rien que pour vous appeler, je l'ai fait, hein, donc je peux me mettre à leur place.
Bah oui, moi, j'essaye de me mettre à leur place parce que c'est quand même un acte courageux. Quoi.
Tout à fait, on est d'accord.
Hein, il faut franchir le pas.
Mais en même temps, c'est courageux et en même temps, ils n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser ce courage-là. Hein. À ce moment-là, la plupart, parce qu'ils sont au bout du bout.
parce qu'ils sentent que ça peut mal finir, quoi.
Oui, ça peut se passer quelque chose. Ouais, tout à fait. Certains peuvent sentir que c'est une des dernières limites.
Bien sûr.
Dernière limite avant suicide, avant machin, avant addiction, avant j'hésite à aller voir un psy ou alors je me calme comme ça, je passerai ailleurs. Mmh. Il y a toutes sortes de choses.
Oui, parce qu'on parlait de cet inconscient là, au début de l'émission, ouais. Mais c'est aussi quelque chose qui peut nous pousser à faire des actes au-dessus de nos propres pensées.
On
nos
peut à un moment donné être complètement identifié à l'enfant qui est en nous, hein, dans la mémoire abandonnée.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner une personne qui vit le désespoir.
Mmh.
Voilà. Du désespoir au suicide, il n'y a qu'un pas.
Ah bah oui. Pas grand chose.
Elle s'identifie à l'enfant désespéré parce qu'elle voit plus de. Il n'y a plus rien à l'horizon, que dalle. Et donc elle est aux prises avec elle-même, plus aux prises avec elle-même, aux prises avec un fond qui est un fond de désespérance du même type, mais elle n'en a pas conscience, que la désespérance de l'enfant qui a vécu l'abandon.
Mmh. Et l'enfant ira lui aussi jusqu'au suicide ?
Vous avez des modalités certaines... que vous connaissez. Vous avez certaines modalités. Alors, vous avez, chez l'enfant, vous allez avoir d'autres traductions. Alors, je ne suis pas sûr d'être exhaustif, hein, mais qu'importe. Mais la première qui me vient, c'est l'autisme. Il se retire.
Il se protège, d'accord.
Il se remet dedans. L'autre qui me vient, c'est les comportements désordonnés. Vous allez voir des trucs apparemment incohérents. L'autre qui me vient, c'est l'enfant qui va devenir un peu obsessionnel, qui commence à avoir des gestes obsessionnels ou alors à frapper. Ou alors... Il y a tout un tas de signes chez l'enfant. Si on y est assez attentif, il y a pas mal de signes du mal-être.
On peut les repérer.
Oui.
Et éviter le drame.
Oui.
Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien de l'écouter, de le laisser s'exprimer ou de provoquer le fait qu'il s'exprime, cet enfant.
Vous n'allez
pas encore
question,
me dire que c'est non, pas bien, c'est
de,
pas mal.
Non, mais dans votre question, il y a beaucoup de choses qui sont à conditionnement éducatif.
Oui.
Et moi, je ne suis pas de ce côté-là. Et en plus, la plupart des éducateurs, je ne vous cacherai pas, et y compris les spécialisés, sont des gens qui souvent, malheureusement, sont ignorants d'eux-mêmes. Et que j'invite du reste à faire un travail psychologique. Et je souhaite même, et ça fera partie d'autres modalités de prévention, que dans... ces histoires de prévention, les acteurs du social, éducateurs inclus, on puisse inclure un certain type de travail pour qu'ils puissent avoir un apprivoisement de leurs propres blessures. Faute de quoi, ils vont chercher des recettes. Dans ces cas-là, on fait quoi ? Tadak, on fait quoi ? Je suis pas dans le faire, moi. Je suis dans l'être. Et on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que je dis, vous ferez ce que vous pouvez. Parce que je sais qu'ils sont pas du côté de l'être.
Mmh.
Donc il y a plein de choses qui vont leur échapper. Donnez-moi une bonne recette, monsieur le psy. Non, ça ne marchera pas, c'est pas ça. Là, s'il y avait une recette, c'est aller voir en vous ce qui se passe. Aller voir en vous les résonances. Aller voir en vous. Retournez voir en vous.
Oui, parce qu'on attend ces recettes. Regardez, même moi, je vous pose des questions
parce que c'est en nous,
c'est inscrit en nous quelque part.
Si vous avez quelqu'un qui, à un moment donné, arrive avec tout un éventail de recettes, partez en courant.
D'accord.
Parce que s'il y avait une recette qui n'est pas une recette, allez voir en vous. Ne vous contentez pas de vos premières impressions sur vos enfants. Allez voir en vous.
Mmh.
Faites le point avec un psy. Ça ne veut pas dire forcément que vous embarquez sur 10 ans. Mais faites au moins le point sur 3-4 séances avec un psy pour essayer de mieux identifier ce qui se passe entre vous et l'enfant. Et vous verrez qu'il y a plein de choses que vous projetez sur votre enfant. Et là, ça vous permettra une petite mise en place. Ce n'est pas forcément de vous engager dans un travail au long cours. Si d'aventure, vous le sentez, faites-le au long cours. Mais des fois, en 3-4 séances, moi, je l'ai vu, ça. Et je l'ai vécu. Alors là, de côté-là, c'est intéressant. Parce que du coup, là, la mère ou le père qui parle, en général, je préfère plutôt l'un ou l'autre et pas les deux ensemble parce que c'est la merde. Mais en tout cas, au moins, on va repérer quelle est la part de l'adulte qui est projetée sur son enfant, qui s'exprime par des peurs.
Mmh.
Qui s'exprime par l'impuissance. Et là, on va explorer avec l'adulte où est-ce que ça l'a rejoint dans sa propre histoire, qui fait qu'à un moment donné, c'est limite supportable. Ou alors, on va repérer qu'est-ce qu'elle s'est avalée comme couleuvre et que quelque part, elle attend. Et qu'est-ce qu'elle attend de son enfant ? Est-ce que son enfant, il est là pour réparer quelque chose dans sa propre histoire ? Est-ce que l'enfant, il est là pour être un double ? Est-ce que l'enfant, il est là pour être un prolongement ? C'est toutes des questions comme ça qui vont être à l'œuvre. Et là, c'est autre chose. C'est pas la réponse pragmatique, mais c'est un autre niveau qui fait que là, on a des chances de désamorcer. Oh putain, monsieur Gérard, mais je commence à piger. Le nombre de fois que j'ai ça devant moi. Je suis content, moi, parce que je sais que par conséquent, avec l'ado, avec le jeune, Mais qu'est-ce qui fait que là, vous avez les trous? Vous me dites quoi? Il a 17 balais, vous me dites qu'avec sa mobilette, il peut faire 5 bornes, il peut pas en faire 10. Mais vous êtes où, là? De quoi vous avez peur? J'ai entendu ça l'autre jour.
Ah ouais.
De quoi vous avez peur? Donnez-moi quoi? Donnez-moi une petite recette. Mais pas du tout. De quoi vous avez peur? Posez-vous la question, on se revoit dans une semaine.
Bon, pas de recette. Bon, on se revoit peut-être dans un mois, nous, si vous voulez.
Oui, oui, avec
parce
plaisir.
Que le temps est arrivé à ses limites. Merci Jean-Jacques Gérard.
Ok, merci à vous.
Je pense et je conseille à nos auditeurs de réécouter plusieurs fois l'émission, parce que c'est quand même, quand on n'est pas habitué, il faut capter hein, tout ça.
Ouais.
Faut écouter, faut réécouter, faut essayer de comprendre. Si on est intéressé, bien sûr, par les histoires d'inconscient, de subconscient, de psychanalyse aussi.
Ouais.
Si
on se sent psychologie, de psychanalyse, oui, tout ça.
Psychanalyse.
L'inconscience qui n'est ce qui est, parce que ce dont on n'a pas conscience et qui est quand même aux manettes la plupart du temps de nos décisions, via les peurs, via la confusion des besoins, via les idées qu'on se fait de nous-mêmes, pour qui je me prends, et ça ressort dans tous ces sentiers-là.
Merci beaucoup.
Ok.
À bientôt.
Ça marche.
Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Osmozen, l'émission bien-être d'Osmose Radio, en partenariat avec Rage FM, puisque vous retrouverez cette émission dimanche soir à 22h sur Rage FM Avignon 90.3.